Bonsoir Michel Lallemand.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur au CNAM et membre du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, le LISE. Et on poursuit cette exploration donc, de ces fameux mots du web ou du numérique, ou en tout cas des réalités que ces mots recouvrent, parfois réalités très disparates. Et avec vous, nous allons revenir sur ce mot de maker souvent associé à d'autres thèmes, makerspace, Fab Lab évidemment, hackerspace. Alors vous consacrez avec Isabelle Bérébi-Hoffmann et Marie-Christine Bureau, qui elles aussi sont sociologues et membres du LISE, un essai qui s'appelle Makers, sous-titré « Enquête sur le laboratoire du changement social ». Alors, c'est une enquête sociologique assez passionnante qui permet justement de tenter d'appréhender cette réalité sociale qui est celle que le mot maker recouvre. Alors justement, ce mot, peut-être très simplement, quand est-ce qu'il est apparu? Est-ce qu'on arrive à le dater Et en deux mots, même si c'est très difficile, si on devait donner quelques traits qui, dans une réalité très disparate des makers, peut rassembler et nous dire en deux mots qui sont. Qu'est-ce que c'est qu'un maker ?
Oui, alors le terme de maker, finalement, a une origine très, très ancienne, puisque ça vient de make, hein, de faire, de fabriquer, etc. Donc le terme maker en lui-même n'est pas une innovation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est revenu sur le devant de la scène sociale très, très récemment, disons à la fin des années 2000, enfin de la première décennie des années 2000, au moment où Dale Dougherty aux États-Unis a relancé toute une série de publications, notamment Make Magazine, et puis de manifestations dont la plus connue est Make a Faire, qui est très très connue aujourd'hui au niveau mondial, puisqu'il y a des Make a Faire non seulement aux États-Unis, mais également en France. Et si le terme de make s'est réimposé, c'est aussi un peu en réaction au succès du terme hack, puisque Dale Dougherty, qui est un entrepreneur, hein, qui notamment possède Make Magazine, c'est le fondateur de Make a Faire, comme je le disais à l'instant, a voulu se démarquer de l'image parfois négative du qui hacker. Était associée au hacker pour pouvoir redonner du sens au mot maker et un sens positif. Et donc c'est ce qui me permet de répondre au fond au deuxième volet de votre question. Les makers, c'est ceux qui font, certes, mais derrière le terme fond, il y a un peu plus que cela. Il y a l'idée qu'on va bidouiller, qu'on va bricoler, qu'on va donner de l'intelligence au geste de la main. Et pour faire référence à ce qui a été dit tout à l'heure à propos du débat sur les millenniums, il y avait l'idée qu'il faut redonner du sens à ce que l'on fait avec cette nouvelle génération. Bah, c'est exactement ce que porte hein, ce mouvement maker, c'est l'idée qu'on va donner du sens à ce que l'on fait. C'est ça qui définit l'identité d'un maker.
Et alors, est-ce que l'identité d'un maker, elle est aussi définie par son lien au numérique? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est ça, soit le numérique est impliqué dans la manière dont on fabrique l'objet. On pense souvent, quand on dit maker, à tous ces gens qui ont fleuri et qui ont commencé à bricoler à partir de cette espèce d'objet star et très fascinant qu'est l'imprimante 3D. On pense beaucoup à ça, mais c'est aussi des objets, il y a toute une liste, les objets égaux, des objets qui sont connectés, des objets qui sont réutilisables, des objets dont on pense la fin. Est-ce qu'ils sont forcément liés dans leur conception à quelque chose de numérique, ou est-ce que c'est finalement une vue de l'esprit?
En fait, le mouvement maker a renoué un esprit qui était déjà présent dans toute une série de mouvements historiquement situés, avec l'idée que on va allier en quelque sorte une espèce d'éthique ou d'exigence qui lie la capacité à créer des choses avec une forme d'esthétique. Hein. Et ça, ça remonte à très longtemps d'une certaine manière. On n'a pas attendu le numérique parce que déjà les shakers souhaitaient fabriquer des choses qui étaient belles. Et donc cette exigence-là, qu'on retrouve aussi dans toute une tradition du mouvement socialiste, elle retrouve une nouvelle actualité avec le numérique. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un plus par rapport à tout cet héritage historique. Et ce plus, c'est tout ce qui est porté par l'éthique hacker et qui a à voir directement, bien évidemment, avec le numérique. Et derrière cette éthique hacker, il y a ce qu'on évoquait à l'instant, c'est le fait que lorsqu'on bricole, il faut qu'on donne du sens à ce que l'on fait. Mais tout ce qui est open source, free, etc., cette exigence du partage qui rompt avec la logique marchande dominante, elle est au cœur du mouvement maker et en lien directement avec l'éthique numérique.
Alors dans ce livre, vous avez vraiment enquêté, vous êtes allé dans plusieurs makerspaces, c'est-à-dire des espaces où on trouve des makers. Alors ils sont de taille, d'ambition, de nature tout à fait différentes. Vous êtes allé en France, vous êtes allé aussi à l'étranger. Et alors du coup, c'est quoi l'outil du maker si on arrive à essayer de le rassembler? Et vous dites dans votre introduction, les makers finalement, on ne sait pas si ce terme-là, il naît dans une utopie technophile ou dans une dystopie technophobe. C'est quoi cette espèce de hiatus? processus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les virtudes du maker aujourd'hui? Il vient d'où ce maker? Et politiquement, est-ce qu'il est tout à fait cohérent? Est-ce que tous ces lieux-là sont cohérents ensemble?
Alors, on a utilisé le terme de famille pour essayer de caractériser cet espace de makerspace, c'est-à-dire de lieu où on fabrique des choses. Alors, ça fait référence en fait à Wittgenstein qui utilisait ce terme de façon extrêmement précise, mais pour dire qu'en fait, tous ces espaces se ressemblent comme on ressemble à ses cousins, mais on n'est pas forcément aussi proche que ses cousins qu'on l'est avec ses frères et sœurs.
Ça peut être quoi ces espaces? Est-ce que vous pouvez me donner peut-être deux exemples d'espaces qui peut-être sont différents?
Oui, par exemple, vous prenez un gros makerspace parisien qui s'appelle Electrolab, qui a 1500 m² près de Nanterre, qui est une pépinière aujourd'hui qui accueille beaucoup de start-up. Donc là, avec une focalisation sur le bidouillage industriel, etc. Vous allez un peu plus loin, vous allez à Paris, vous avez un gros espace qui s'appelle La Paillasse, qui se spécialise, lui, davantage dans tout ce qui est bio hacking. Donc l'idée qu'on va hacker, bricoler le vivant, et au nom d'enjeux qui sont que il n'y a pas simplement que les spécialistes qui peuvent bricoler le vivant, n'importe qui, n'importe quel citoyen a droit lui aussi au bricolage. Et puis vous avez d'autres espaces qui sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes. Pendant très longtemps, le TMP Lab, le Loop, revendiquaient davantage un héritage hacker classique, on faisait davantage de la programmation et du codage. Voilà, ouais. Donc vous voyez des perspectives complètement différentes, mais qui ne sont pas unifiées forcément par une perspective politique, parce que l'idée c'est que si on recrée de l'espace commun, c'est avant tout par le bas, et pas forcément par les grandes institutions que sont les partis politiques, les syndicats, etc.
Même si vous rappelez dans ce livre qu'en France, ils sont assez bien financés, ou en tout cas aidés par des régions, par des municipalités. Je conseille vraiment ce livre, où par ailleurs, dans l'une des dernières pages, on trouve un espèce de tableau où on voit à peu près tout ce qui se fait, tout ce qui relève du making. Ça peut être aussi bien des avions 3D, que des bijoux connectés, que de la bière artisanale, que des captures du culture d'œillets et d'orchidées in vitro, des open labs bien sûr, de l'encre végétale, etc. etc. Avec évidemment une frise qui va du bricolage avec des matériaux qui sont les plus traditionnels à ceux qui vont vers les matériaux les plus électroniques. Juste une question, et vous le dites très bien dans votre livre, certains ressentent à la fois, c'est présenté parfois, c'est ce mouvement des makers, des Fab Labs, des Hackerspace, comme une espèce de transformation ultime du capitalisme, une nouvelle forme de capitalisme, et en même temps, vous le dites, c'est un petit peu le contraire du capitalisme tayloriste tel qu'on l'a conçu, c'est-à-dire fabriquer beaucoup en grand de manière standard, alors que là, on fabrique tout seul des choses qui sont faites pour durer. Est-ce que ce terme va survivre finalement à l'immense complexité et l'immense diversité de ces profils? Est-ce que si cette économie un jour grandit, cette économie et cette façon à la fois de produire et de penser l'économie, est-ce que ce terme va rester?
On peut l'espérer. Tout ce que, en tous les cas, nous voyons aujourd'hui dans notre enquête avec Isabelle Berry-Bioffmann et Marie-Christine Bureau, c'est la prolifération des dénominations.
Et nous quelques exemples?
Alors, il y en a tellement que, bon, alors, la première opposition, c'est entre Hackerspace et Fab Lab, pour laboratoire de fabrication. C'est celle qui est structurante.
Et qu'est-ce que c'est que ces deux mots, alors? Qu'est-ce que ça recouvre?
Alors, grosso modo, c'est tout le débat. En réalité, ça peut se ressembler beaucoup. Mm-hmm. Historiquement, ça renvoie quand même à des histoires un peu différentes. Les hackerspace venant plutôt de la côte ouest des États-Unis, très proche de la Silicon Valley. Le premier hackerspace est né en 75 et il a été fréquenté par les grands noms qui étaient Steve Jobs, Bill Gates, etc. Et puis les Fab Labs sont nés beaucoup plus tard, disons au tournant du siècle, au début des années 2000, avec des aspects plus technophiles que les hackerspace. Dans les hackerspace, les gens sont davantage liés au mouvement politique, avec l'idée que lorsqu'on bricole quelque chose, on ne fait pas que bricoler du matériau, mais on bricole aussi la société et on invente d'autres façons de vivre ensemble. Mais vous avez le terme biohackerspace est entré aussi dans le jeu. On peut parler de Maker Lab, etc. Donc la liste est infinie. Et derrière tout ça, il y a au moins deux grands types d'enjeux. Premier type d'enjeu, c'est de créer une communauté à partir d'une dénomination à peu près commune. Donc se reconnaître hacker, maker, ça crée du collectif. Et en même temps, on voit bien que s'il y a des batailles sur les mots pour dire « Ah non, nous on est plutôt un Fab Lab, nous on est plutôt un Tech Shop, nous on est plutôt un Makerspace », ça renvoie à des orientations qui ne sont pas forcément exactement les mêmes.
Merci beaucoup Michel Lallemand. Donc je conseille vivement la lecture de ce livre « Makers, enquête sur les laboratoires du changement social » qui est à la fois une enquête très riche, rondement menée et qui se lit très facilement, que vous avez coécrit donc avec Isabelle Berry-Bioffmann et Marie-Christine Bureau. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.